Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Nora Hamadi est toujours là, tout comme Perry Colegas, Randall Schwerdorfer et Christophe Barbier. Rebonsoir à tous les quatre. On accueille sur ce plateau Serge Tisseron. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre, auteur de ce livre 3-6-9-12 pour apprivoiser les écrans et grandir. On a besoin de vous, évidemment, ce soir, puisqu'on va parler de ce rapport remis aujourd'hui à Emmanuel Macron qui préconise donc d'interdire l'usage des écrans et des téléphones portables aux plus jeunes et d'en limiter drastiquement l'accès pour les adolescents. On va faire le point avec David Dunal. Vous avez lu ce rapport. Que dit-il précisément, David ?
Alors déjà, c'est un rapport de 142 pages de constats, d'analyses, de propositions. D'abord, vous allez le voir sur les constats et sur l'analyse. Les experts pointent, vous allez le voir, l'hyperconnexion subie des enfants avec des conséquences sur leur santé, sur leur développement. On parle par exemple d'obésité, de myopie, de risque de dépression ou encore de dépendance aux écrans. Ensuite, ce sont les stratégies de captation de l'attention des enfants, notamment via des applis. Là encore, les experts constatent que tous les biais cognitifs sont utilisés pour enfermer les enfants sur leurs écrans, les contrôler, les réengager et les monétiser. Le rapport décrit des enfants devenus, vous le voyez, la marchandise de ce nouveau marché.
Donc, que propose le rapport pour reprendre le contrôle, justement ?
Alors, on va le voir ensemble. Déjà, il propose de limiter l'accès aux écrans pour les plus jeunes, prohiber avant 3 ans et puis entre 3 et 6 ans, un accès fortement limité à ces écrans. Pour le téléphone portable, l'autoriser à partir de 11 ans seulement, mais sans Internet. Et puis à partir de 13 ans, un accès sans les réseaux sociaux à Internet. Et puis à partir de 15 ans, là, un accès aux réseaux sociaux dits éthiques. Enfin, pour lutter contre la captation de l'attention, le groupe d'experts appellent à lutter contre les services prédateurs des acteurs économiques, comme par exemple le fil de déroulement infini ou le lancement automatique de vidéos. On pense par exemple à des applis comme TikTok ou Instagram.
Merci beaucoup, David. Donc, si je résume concernant les écrans, ce que rapport préconise, c'est d'interdire les écrans avant 3 ans, entre 3 et 6 ans limiter fortement l'accès. Et puis, concernant le téléphone portable, l'autoriser à partir de 11 ans, mais sans Internet. Donc, pas de smartphone. À partir de 13 ans, smartphone sans réseaux sociaux. Et à partir de 15 ans, accès aux réseaux sociaux dits éthiques. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Serge Tisseron, de ces préconisations ? Est-ce qu'elles vous semblent aller dans le bon sens ?
Alors, elles vont tout à fait dans le bon sens. Ce que je n'ai pas encore bien compris, c'est qu'il s'agit de créer des interdictions légales. Par exemple, faire en sorte que aucun parent d'enfant de 9 ans puisse acheter un téléphone donnant accès à Internet, ou bien s'il s'agit de conseils donnés aux parents. Et évidemment, on a la possibilité d'interdire que ce qu'on a les moyens d'interdire. Et là, il risque d'y avoir des partages compliqués à faire par le président de la République. Il faut attendre maintenant quelle idée il va mettre en avant.
Peut-être qu'on peut écouter justement là-dessus l'une des personnes qui a contribué à ce rapport. Il s'appelle Amine Benyamina et lui il le dit. En fait, voilà, il s'agit pas d'aller faire la police, mais ce qu'on donne là, c'est un guide pour tous les parents, pour les écoles aussi. On écoute.
On leur offre, à travers ce rapport, une forme de guide. C'est pas quelque chose qui va s'imposer. On mettra pas un policier devant chaque foyer. Le président, avec toute la force qu'il peut avoir, ou tous les présidents du monde, ne pourront pas venir légiférer dans les foyers. On est assez pragmatique. Il y a des données, on préconise des interdictions.
Perry Colegas, un guide, donc, voilà, des conseils pour les parents.
On se réjouit de ce constat, et que ce soit des mots qui soient dans la bouche du président de la République est une bonne nouvelle. Je rappelle seulement que le docteur en neurosciences à l'INSERM, Michel Desmurger, avait écrit en 2019 un livre qui s'appelait « La fabrique du crétin digital » où il alertait les pouvoirs publics et l'institution scolaire des ravages qu'allait provoquer l'écran instauré par M. Claude Allais, qui avait dit « faut introduire l'ordinateur, ça va être la révolution ». C'est un cauchemar absolument total, monsieur ne me démentira pas. Et Desmurger avait été très précis sur les préconisations à suivre. À l'époque, on lui a dit « circuler, il n'y a rien à voir ». À part quelques instances qui avaient dit « oui, il y a peut-être un problème », on avait... Et aujourd'hui, on découvre la Lune, oh, il y a des dangers. C'est pire que des dangers.
Il y a eu plusieurs alertes quand même, Perico.
Oui. Mais enfin, attendez, avant, entre 2019, pourquoi il faut 5 ans pour que quelqu'un comme Michel Desmurger, qui est quelqu'un de respecté, qui est à l'INSERM, qui fait un travail extrêmement sérieux, aussi compétent que vous, cher monsieur, bien entendu, enfin, vous êtes aussi, vous êtes dans la même, je pense que vous êtes dans la même préoccupation, dans la même, voilà, je ne fais pas de discrimination. Non, mais c'est vrai, 2019, c'est il y a 5 ans, tous les médias l'ont repris. Ça a été commenté partout, très bel article, en 2023, dans le Figaro. Une interview où il raconte, attention, on a la chance, il pourrait ne pas y avoir de réaction. Mm. On attend 2024 pour constater que l'école est en train d'être ravagée et le cerveau de nos enfants lavé et détruit par un système qui finalement est un système commercial, parce que le but de l'écran, c'est de transformer l'élève en consommateur. Voilà, c'est de le faire entrer dans le marché. C'est pas du tout.
Et on parlera évidemment aussi du rôle des industriels qui sont pointés du doigt dans ce rapport. Serge Tisseron.
Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est légalement interdit et qu'est-ce qui est conseillé. Le grand problème autour de M. Desmurger, puisque vous en parlez, c'est qu'il a toujours mis l'interdiction légale en avant. Alors que moi, j'ai toujours mis en avant le conseil. Là, justement, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va être choisi par le président de la République. J'espère qu'il y en a deux. Et justement, l'interdiction des écrans dans les crèches, l'interdiction des écoles dans les maternelles, ça doit faire l'objet de décisions très claires, impératives. Et je rajouterais même l'interdiction des écrans à la pause méridienne dans les écoles élémentaires. On ne peut pas demander aux parents de limiter les écrans dans la famille si l'enfant, entre midi et deux, il voit un écran.
Alors moi, je découvre un petit peu, il y a des écrans dans les crèches.
Bien
pour
sûr,
ceux qui ont des enfants crèches. En bas âge.
Mais oui, j'ai même entendu certaines directrices de crèche déclarer que les enfants ont tellement d'écrans à la maison que pour ne pas les dérouter de la vie à la crèche, vont ne pas leur proposer des repères à la crèche trop différents des repères familiaux, il faut leur mettre des écrans. Donc si vous voulez, à partir du moment où il y a une telle présence des écrans, il y a même des bonnes volontés qui vont s'engager sur des chemins extrêmement périlleux.
Alors, Randall Schwerdorfer, pour
commencer. Le problème, c'est que si on enlève les écrans aux enfants, aux jeunes enfants, aux jeunes adolescents, il va falloir que les parents s'en occupent. Ça va être compliqué. La deuxième chose, et je crois qu'il faut en être conscient, moi je veux bien le livre du docteur Tisseron et je veux bien que vous me le dédicaciez au nom de mon fils Achille qui a 12 ans, parce que je ne sais pas comment l'enlever de l'écran. Donc j'essaye de trouver des solutions, mais je crois que tous les parents ont le même problème. Moi j'ai fait un contrat avec un de mes fils qui a 12 ans, lui disant voilà...
Ah, vous faites des contrats avec votre fils,
il a raison.
Tu vas te mettre au sport, notamment, moi je suis un pratiquant d'arts martiaux, tu vas te mettre au karaté, tu vas faire quelques heures, on va faire ça ensemble, on va choisir ton sport, et en contrepartie, je te laisse tel temps d'écran, parce que sinon, il ne fait que ça.
Parce qu'à 12 ans, c'est quoi? Est-ce que vous arrivez à mesurer un peu?
C'est un ordinateur de gamer, c'est des passionnés, ils jouent en ligne, entre copains, c'est un truc de dingue, ils peuvent rester 12 heures dans une chambre à jouer. Et tous les parents, des fois, on ne sait pas qu'on a un enfant, parce que ça a complètement changé. Avant, on allait regarder la télé avec ses parents, on ne va plus regarder la télé avec ses parents, ils regardent leur télé, leur programme, et les jeux sont tellement attractifs. Perico Legas a raison. C'est fabuleux ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'aurais eu ça quand j'avais cet âge-là, mais j'aurais pas décroché de l'écran non plus. C'est extraordinaire.
Après, il y a deux choses là-dedans.
Parce c'est très
que,
difficile. Ouais, on a besoin de conseils, on est un peu perdu quand on est parents.
Vraiment pas facile parce que, d'une part, on parle de donner un cadre. Peut-être que les premiers à qui il va falloir donner un cadre, c'est les parents eux-mêmes. Dans le rapport, il est noté qu'il y a en moyenne 10 écrans par famille, ce qui paraît considérable, que l'écran de portable comme ceux qu'on a nous aujourd'hui là sur nos on les a pas lâchés on a des familles et je veux pas ici stigmatiser qui que ce soit qui sont à table en fait et qui regardent le téléphone et qui sont pas non plus capables de le lâcher. Donc comment en fait on éduque toute la famille à un usage à peu près raisonnable parce qu'en fait si vous avez des parents qui disent non mais toi tu auras pas un smartphone mais que vous-même en fait vous êtes pas capable de lâcher, qu'est-ce que ça dit? Deuxièmement, moi qui suis régulièrement en atelier avec des gamins, je le vois bien, moi c'est plutôt des ados, moi c'est des 15-20, on les pense multitasking, c'est-à-dire qu'ils seraient capables d'être multitâche, donc vous êtes là en atelier, et en fait ils sont incapables de lâcher leur téléphone, ils font des vocaux, ils regardent des stories sur Snapchat, sur TikTok, etc. Et en fait, on voit bien qu'il y a une difficulté véritablement à se concentrer concentrer et lâcher le téléphone, c'est presque quelque chose de douloureux, quoi. On a l'impression que c'est un doudou, en fait, qui lâche. Non, mais c'est, oui, mais ça se décrète pas. En fait, on est face à des générations.
Ça se décrète pas. Non, mais.
Bien sûr. Non, mais ça se décrète pas. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, c'est quelque chose qui doit interroger toute la société. Mais quand vous voyez, par exemple, et moi, ça m'est arrivé de, vous faites vos courses et vous avez des parents parce que ça occupe les enfants. Et on l'a vu pendant le Covid, en télétravail ou ailleurs, ou parce qu'il faut focus leur, leur gamin. Bah, j'ai vu un gamin, en fait, d'un an et demi dans une poussette avec un smartphone qui lui passait.
Voilà. Qui, allez,
là-dedans, moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'entendre Serge Tron. Enfin, quelle est la différence entre ces écrans-là et nous qui avons regardé peut-être beaucoup aussi la télé quand nous étions petits? Parce que on a le sentiment qu'il y a écran et écran.
D'abord, la télé, à l'époque de l'ORTF, pour des gens de ma génération, elle n'émettait pas toute la journée.
Voilà.
Dans c'est votre limité. Cas,
il y avait du coup Santelli, c'était autre chose que.
Dans votre cas, il y avait déjà probablement quelques chaînes.
On avait beaucoup, beaucoup de
chaînes. Mais encore, il y avait des gens qui regardaient les mêmes choses. Aujourd'hui, dans une famille, vous disiez tout à l'heure, les enfants sont enfermés pour jouer aux jeux vidéo, les parents font autre chose, mais il arrive que dans le couple, le monsieur soit devant un écran et la dame soit devant un autre écran. Donc, de toute façon, aujourd'hui, il y a un problème, si vous voulez, de refuge dans les écrans. On essaye de fuir le sentiment de solitude, mais on aggrave sa solitude. Plus on cherche à avoir des relations sur les réseaux sociaux, moins on s'engage dans des relations dans la vie réelle, plus on est frustré, plus on cherche sur les réseaux sociaux. Donc tout le problème, ça va être d'instaurer une dynamique dans la durée. Aujourd'hui, le rapport vient de paraître, la presse en parle, la télé en parle tous, on va en parler dans les familles la semaine prochaine. Après, qu'est-ce qui va se faire dans la durée? C'est-à-dire que l'intérêt de la législation, c'est de brutaliser les habitudes. Mais si on n'y a pas des décisions claires, c'est-à-dire législatives, les habitudes resteront.
C'est ça le danger. Si c'est juste un guide, comme l'expliquait Amine Benyamina qui a écrit ce rapport, c'est juste un guide pour les parents. Et on ne peut pas, parce qu'il expliquait les limites, on ne peut pas légiférer dans la sphère privée, c'est compliqué.
Non, bien sûr.
On va mettre la police devant les maisons de chacun.
Non, voilà. Non, mais un guide, en parler, le répéter, le ruminer, ça finit par faire réfléchir beaucoup de parents. Il ne faut pas non plus croire que ceux qui nous regardent sont indifférents, idiots. Ils se rendent compte des problèmes qu'ils ont de concentration chez leurs enfants. Ils sont à la recherche de rétablir un contact. Tout ce qu'on peut leur donner comme bonnes idées, ça finira par être fécond. Par ailleurs, la puissance publique doit légiférer ou au moins créer des règles, et notamment dans tous les endroits où ces règles peuvent être installées.
Sur la vente,
le milieu professionnel, l'école, les crèches, on va interdire les écrans, et au bout d'un moment, l'école apparaîtra comme un sanctuaire qui montrera qu'un enfant peut être heureux et épanoui en se passant totalement d'écran personnel ou collectif pendant une journée d'école, et les familles se diront c'est plus facile pour nous maintenant de dire ça va être à la maison, un peu comme à l'école, tu auras droit à un peu d'écran mais pas trop. Voilà. Rétablir des écrans collectifs ensemble pour regarder un film, pas chacun avec son écran dans sa chambre ou l'écran dans la poche. Je suis sûr que ça peut être vertueux à terme. Ça veut dire aussi travailler sur les contenus. C'est-à-dire que moins il y aura d'opérateurs qui mettront tout et n'importe quoi en ligne, notamment des choses nocives, plus le contenu deviendra positif, éthique, pédagogique, didactique, moins on aura à s'inquiéter du temps passé devant les écrans.
Et ça, c'est de la législation.
C'est même la législation internationale.
Ouais,
c'est d'ailleurs en cours, avec des bras de fer, avec certains opérateurs. Ouais. Donc moi, je ne veux pas désespérer de cela. Il y a des expériences, d'ailleurs. Regardez les Danois. Ils avaient misé sur le tout numérique, le tout écran à l'école. Ils ont fait demi-tour. Ouais. Ils ont rétabli des jeux à l'extérieur. Le retour du livre accompagné.
Évidemment.
Parce que pour amener un enfant à trouver du plaisir dans un livre, ça s'éduque. Et c'est pas, tiens, prends ça. Prends ça, je l'ai lu à ton âge, c'était bien. Ça marche pas. Ça marche pas. Et puis, la Suède, qui fonctionnait par tablette, même pour l'écriture, c'est les enfants ne manipulaient plus de stylo pour écrire jusqu'au CE1. Ils ont aboli ça à la rentrée dernière.
Oui,
ils reviennent au papier.
C'est plus compliqué que ça. Ce sont des pays qui ont des cultures différentes des nôtres. Les écoles ont un environnement différent des nôtres. Quand on voit des écoles là-bas, quand on voit comment elles sont organisées, l'espace qui est disponible, l'alternance des matières, ça n'a rien à voir avec le bâtiment d'époque Napoléon III qui est en face de mon appartement dans ma rue. Rien à voir avec une cour minuscule. Donc, très vite, en fait, le problème va être celui des alternatives. C'est très bien d'interdire les écrans. Les enfants sont beaucoup dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On me dit, il y a des parents qui vont se mobiliser, puis il y en a qui vont se mobiliser avec leur argent, qui vont payer des tas d'activités, clubs de manga, clubs de théâtre, etc. Il y en a déjà qui le font. Les cadres se débrouillent à peu près bien. Ils payent des babysitters, ils payent des différentes activités à leurs enfants. 9,5 millions de pauvres en France. 9,5 millions de pauvres. Les écrans, c'est pas vraiment leur préoccupation.
Et voilà.
3,5 millions de gens qui mangent pas à leur faim tous les jours en France. C'est pas non plus leur leurs préoccupations. Donc comment est-ce qu'on va faire pour entraîner ces gens dans une dynamique vertueuse? Ça va être long, c'est-à-dire qu'effectivement la législation est importante, mais aussi des campagnes d'information, et puis vous savez, s'appuyer sur les enfants. Regardez tout le travail qui a été fait auprès des enfants pour leur dire « l'eau, c'est rare, il faut la protéger mmh. ». Et le nombre d'enfants qui est allé voir leur maman ou leur papa en disant « papa, maman, on prend des douches ». Voilà. Le tri sélectif, pareil, les enfants, ils veulent le faire.
Et il faut faire la même chose avec les écrans.
Exactement. Si les enfants sont éduqués dès l'élémentaire, je pense qu'ils peuvent même, eux, avoir une influence sur les parents.
Parce que
ceux qui ont les habitudes les plus enquistées, c'est pas les enfants qui arrivent à 6-7 ans aujourd'hui, qui n'ont pas encore découvert le smartphone.
C'est les parents qui le transmettent
aux
enfants.
Et l'État doit montrer l'exemple aux parents, mais si les enfants sont éduqués aujourd'hui dans des écoles qui ont des pratiques différentes, il faut espérer qu'ils vont
engendrer
une dynamique vertueuse avec les parents.
Sur les effets, on a l'impression qu'il n'y a pas de consensus chez les chercheurs non plus. Quels sont les effets d'une trop grande confrontation aux écrans à un très jeune âge?
Alors, avant 3 ans ou jusqu'à 6 ans, il n'y a pas photo, hein, tous les experts sont d'accord. Entre 0 et 3 ans, vous avez une explosion neuronale, l'enfant est capable d'apprendre une foultitude de choses, donc il a absolument besoin d'interagir avec des humains et puis d'interagir avec ses 5 sens. Mmh. S'il est devant un écran, il perd son temps. Alors il peut être devant un écran 20 minutes, 25 minutes, mais même pas 10 minutes, ça suffit largement. Hein, voilà. Parce qu'après, c'est du temps perdu. C'est un enfant, il n'est pas comme nous. Il n'est pas réveillé de 7h du matin. Enfin, ça dépend des professions. Il n'est pas réveillé de 7h du matin à minuit le soir. Il a des périodes d'éveil courtes. Donc, il faut absolument qu'ils soient engagés dans la relation. Alors après, plus l'enfant grandit, plus évidemment, ce qui va être important pour lui, c'est ses copains. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, il ne faut quand même pas oublier que c'est pour beaucoup de jeunes le lieu où ils retrouvent leurs potes. Et donc, si on leur supprime les réseaux sociaux et retrouvent leurs potes, eh bien, il faudra qu'ils les retrouvent ailleurs. Et n'oubliez pas quand même que on peut regretter le temps où il n'y avait pas d'écran, mais à l'époque où il n'y avait pas d'écran, les villes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il n'y avait pas des quartiers hantés qui étaient bétonnés, il n'y avait pas des tours immenses, il y avait beaucoup plus d'espaces de jeu il y a 25 ans dans les villes qu'il y a aujourd'hui. Donc il va falloir recréer ces espaces de jeu, il va falloir ouvrir les cours de récréation des écoles et les préaux des écoles le samedi et le dimanche pour que les
jeunes... le week-end, pour qu'ils puissent s'y retrouver.
Pour qu'ils aient des espaces
de
jeu.
Plutôt que de chercher sur les réseaux.
Effectivement, aujourd'hui, on est dans des civilisations où les enfants, typiquement, ne sont plus dans la rue. On en voit plus dans la rue.
C'est interdit.
Mais là-dedans, ce que vous dites, c'est que ça va impliquer aussi qu'on recrée des emplois de médiation.
Exactement.
Des animateurs.
Oui, parce que j'allais dire, c'est réaliste, c'est ça, d'ouvrir les cours d'école.
Ah ben,
on l'a fait.
À Rouen, ça se fait. À Paris, il y a un petit peu de réticence parce que la mairie de Paris veut qu'il y ait un gardien. Mais j'étais à Rouen il y a quelques semaines faire une conférence et des gens de la ville de Rouen m'ont dit, mais chez nous, c'est les parents, c'est les associations familiales qui s'en occupent. Donc, si Rouen le fait, d'autres villes peuvent le faire. Il faut faire confiance aux usagers. Si vous voulez, il y a plus de gens sains que de gens tordus. Le problème, c'est que les algorithmes mis en place par les plateformes finissent par jouer sur les biais des gens, sur leur souffrance, sur leur solitude, et à aggraver leur souffrance, et alors même qu'ils s'en rendent pas compte. Donc il faut briser ça, et ce rapport est bien pour dire
c'est
qu'il faut
vital
arrêter.
Et
alors, Marcel Ruffo est avec nous et suit ce débat. Professeur émérite de pédopsychiatrie, pardonnez-moi. Vous souhaitiez intervenir, je crois, Marcel Ruffo.
Oui, non, je trouve que effectivement le rapport est un rapport de bon sens. Qui serait pour les écrans à 3 ans, à 10 ans un smartphone et l'Internet à 15 ans. Ça c'est la théorie, mais en pratique, les difficultés sont très, 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 très grandes. Je vois par exemple l'appétence incroyable des enfants que je vois en consultation qui essayent d'attraper le téléphone de leurs parents, quoi. Et que donc, qui sont agités tant qu'ils n'ont pas l'appareil et qui sont pratiquement dans un effet hypnotique par cet appareil, comme si la stabilité était fonction de cet appareil. Alors ne parlons pas des adolescents qui eux, par exemple, tout à l'heure j'ai entendu quelque chose de très intéressant sur la réalité et le virtuel. Mais savez-vous que les études ont montré aussi que lorsqu'on a beaucoup d'amis virtuels, on a plus d'amis réels après, comme si l'expérimentation du virtuel était propédeutique pour avoir du virtuel. Alors bien sûr, il y a la pornographie, il y a les prédateurs sur la toile, les gens embusqués qui surveillent les adolescents comme un prédateur qui rentrerait chez nous sans barrière et sans défense. Alors je crois vraiment que qu'en fait, je crois bien aussi à l'intelligence des parents, à l'intelligence des enfants aussi, et que petit à petit, on peut retrouver le plaisir de jouer aux cartes, par exemple. Chose qui a disparu, les adolescents, de mon temps, jouaient aux cartes dans les bistrots, de manière addictive d'ailleurs. Ils jouaient beaucoup aux cartes.
Mais donc, qu'est-ce que vous préconisez aux parents un peu paumés qui savent plus quoi faire face à cette addiction? On en a un sur le plateau, Randall Schwerdorfer, parent d'un ado de 12 ans un peu désespéré. Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Alors, moi, souvent, je suis assez étonné, à mon tour, lorsque les parents me demandent de prescrire le temps d'écran, quoi. Alors, je suis obligé de répondre parce qu'ils me disent, non, mais on veut que nous répondiez à cette question, comme vous faites maintenant. Alors, je dis que par exemple, lorsqu'ils ont fait leur devoir, appris leur leçon, etc., aller 20, 30 minutes sur les réseaux sociaux ou avec leurs écrans, c'est sympa la semaine et un peu plus le week-end, quoi. Lorsqu'ils peuvent jouer en réseau, au niveau international, avec des tas de jeux intéressants. Parce que j'ai entendu aussi que nous, si on était adolescents, on serait passionnés par ça. Hein. Si on avait eu ces outils, on aurait été tout aussi addictifs que les adolescents d'aujourd'hui. Mmh. Donc, je crois que, comme toujours, la raison, c'est dans le moyen terme, quoi.
Et la question aussi, parce que les écrans, ils font partie aussi de notre société maintenant. Voilà, bien les sûr. Téléphones portables, les écrans, on ne peut pas les bannir. Est-ce que la question, ce n'est pas plutôt justement d'apprendre à utiliser cet outil plutôt que de le bannir, de l'interdire?
Par exemple, pour les dysorthographies, les dyslexies, les dyscalculies, les écrans sont un moyen d'intégration et d'inclusion génial. On ne peut pas à l'école se passer de cet outil quand par exemple un enfant est très gravement handicapé pour écouter les leçons et les comprendre, et que grâce à l'écran il va être comme ça à hauteur de ses camarades, quoi. Et dans le fond, avec aussi du côté des gosses qui n'ont pas besoin d'écran pour travailler, une sorte d'acceptation de la différence. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses. Est-ce que, par exemple, la question que je me pose, est-ce qu'un jour on n'apprendra pas à taper plutôt qu'à écrire? Est-ce que l'écriture, qui avant était tous les pédagogues le disent, on apprend à écrire avant d'apprendre à lire, est-ce que maintenant on n'apprendra pas à taper sur écran avant d'apprendre à lire? Donc vous voyez, c'est un sujet passionnant, quoi.
Et je crois effectivement. Et ce serait grave, selon vous, si on apprenait dans les prochaines années à taper avant d'écrire?
Non, ce serait pas grave du tout. Les moines copistes ont disparu. Gutenberg a transformé l'imprimerie, a été une première révolution où les moines copistes ont disparu, quoi. Et voilà. Non, moi je suis assez optimiste sur le moyen terme, l'équilibre, la réflexion. On a vraiment vu, ça c'est vrai, que les écrans avant 3 ans entraînaient un retard de langage. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, ce retard de langage peut être compensé par le fait que les parents ne doivent pas abandonner leurs enfants à l'écran. Il faut que les parents regardent ce que regarde l'enfant, par exemple, avec les enfants. Ça crée une autre sociabilité. Je regarde un dessin animé, une vidéo avec toi.
Pas tout à fait d'accord avec ce que dit Marcel Ruffo, je crois. Ça.
Oui, au niveau d'apprendre à écrire en tapant, en dactylographiant. Non, la main est un outil absolument formidable. Et vous savez, les paléontologues, le roi Gourand a bien dit, l'intelligence humaine, elle se développe en même temps que la taille du silex. C'est-à-dire, c'est parce qu'on utilise ses mains qu'on développe son intelligence théorique. Et donc, peut-être un jour, mettra les enfants devant des machines à écrire, je ne sais pas. Mais je crois plutôt que l'avenir, ça sera l'oralité. Et puis surtout, développer des activités qui exaltent les possibilités de la main. Toutes les activités de peinture, de dessin. Vous savez, actuellement, je suis frappé, je vois des assistantes sociales qui me disent, vous savez, monsieur Tisseron, les crayons de couleur et le papier n'apparaissent dans certaines familles que lorsque c'est inscrit sur la liste scolaire. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'enfants qui grandissent sans papier et sans crayon. Et quand les assistantes sociales disent pourquoi, les parents disent parce qu'on a peur qu'ils griffonnent sur les murs.
Je suis quand même très étonné d'avoir deux éminents pédopsychiatres comme vous deux, monsieur Tisseron et le professeur Ruffo. Personne ne parle de lecture. Alors, il n'y a pas que ça. Mais est-ce qu'on peut rétablir le fondement de l'éducation et de l'instruction, qu'est la lecture? Moi, je connais des familles trois enfants, 10, 12 ans. Il y en a un qui est sur l'auberge de la Jamaïque, l'autre sans famille, et le troisième, le père Goriot. Et je peux vous dire que ces trois enfants sont captivés par leur lecture, ils n'ont pas d'écran chez eux, et les conversations sont aussi passionnées, et leur ouverture d'esprit est encore plus énorme.
Oui.
Et quand on les entend parler, évidemment, c'est autre chose que ce qu'on entend parler.
Alors là, je peux vous répondre. Pour s'intéresser à ce que quelqu'un écrit, il faut que quelqu'un se soit intéressé à ce que j'ai à dire. Or, il y a des tas de familles dans lesquelles, et à l'école d'ailleurs, n'en parlons pas, c'est pire encore, on ne s'intéresse pas à ce que les enfants peuvent dire. Lorsqu'on posera beaucoup plus de questions à l'école aux enfants, vous savez, de la pédagogie de projet, la pédagogie inversée, etc. Lorsque les parents seront beaucoup plus curieux de ce que pensent leurs enfants, c'est-à-dire lorsqu'ils lâcheront leur smartphone, disons-le clairement, parce que c'est ça le gros problème. Beaucoup de parents sont sur leur smartphone.
L'école est encore un lieu de connaissance de professeurs,
j'espère. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut...
C'est l'élève qui apprend, c'est pas le maître qui apprend l'élève.
Alors, le maître apprend à l'élève, mais le maître, hélas, ne tient pas suffisamment compte de la manière dont la conscience du savoir se forme dans l'esprit de chaque élève. Donc, le maître, ce n'est pas seulement un support d'information, c'est un modèle de rapport au savoir. Un modèle de rapport au savoir dans lequel, ce qui est important, c'est un esprit critique par rapport au savoir.
Mais...
Donc, le jour où les enfants seront plus dans les familles, dans certaines familles, les enfants, la vie des enfants est suffisamment demandée souvent pour que l'enfant se sente reconnu. Et ces enfants-là, évidemment, ont plus de facilité à passer à la lecture, c'est-à-dire à s'intéresser à ce que d'autres écrivent. Mais regardez, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont invités sur les réseaux sociaux à écrire les suites qu'ils imaginent pour des feuilletons.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas un désintérêt pour la lecture. Regardez, Harry Potter, quand même, il y a des tas d'enfants qui ont lu chaque tome trois fois. Deux fois.
Bien sûr, mais.
Donc c'est pas.
Je fais allusion à ceux-là, mais ils sont très minoritaires.
La saga des chats. Ah non, il y en a beaucoup.
Mais ça se décrète pas. Là où. Ce que vous dites est primaire, on voit aussi qu'il y a des enfants à qui on a lu des histoires. Et en fait, c'est.
Oui,
c'est la fonction du récit. Si vous avez dans les familles, mais il n'y a pas que dans les familles, à la bibliothèque, il y a encore des gens aujourd'hui qui font des moments de lecture. Et en fait, c'est comment on recrée aussi ces espaces où, du coup, l'enfant entre dans le récit, du coup, apprend aussi à se raconter, apprend à dire je, à raconter sa journée. Et c'est un lent apprentissage. Et c'est tout cela, en fait, c'est ce processus-là qu'il faut apprendre à remettre en place.
Et exactement. Ces situations dans lesquelles l'enfant est invité à lire parce qu'il voit autour de lui des adultes qui ont du plaisir à lire ou plaisir à lui lire des choses. Il y a beaucoup de maisons dans lesquelles il n'y a pas de livre.
Une dernière question à poser à Marcel Ruffo. Vous disiez il faut surveiller un petit peu ce que font nos enfants. Est-ce que ça veut dire fouiller un petit peu dans leur téléphone, par exemple?
Je crois que c'est un outil dangereux, quoi. Et c'est un outil dangereux. Et c'est vrai que la confidentialité, le livre secret ancien, les petits carnets secrets, par exemple, lorsqu'un enfant est attaqué sur la toile, harcelé, attaqué sur son poids, etc., et met des idées suicidaires, on ne peut pas laisser aller la confidentialité, et donc vraiment, il faut intervenir. Et par exemple, je reviens aussi sur l'histoire du dessin. C'est vrai que les crayons, le dessin du bonhomme, c'est la spatialité, le schéma corporel s'organise par le dessin, et donc effectivement les crayons de couleur sont à mettre à côté des écrans pour créer une sorte de compétition. Tiens, voilà une feuille de papier et des crayons, et par exemple, un peu comme faisait Winnicott, je dessine avec toi, je complète le dessin, j'imagine le dessin avec toi. Ça peut être aussi un bon moyen de contact avec les enfants.
Merci beaucoup Marcel Ruffo d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous également Serge Tisseron. Je rappelle votre livre 3-6-9-12 pour apprivoiser les écrans et grandir. Merci
oui, et je à pense, tous les deux. Je non plus, je n'étais pas d'accord avec Marcel Ruffo. Je pense qu'il ne faut pas espionner nos enfants parce qu'ils seront toujours gagnants à ce petit jeu. Vous savez, ils développent des stratégies de l'ombre, ils deviennent insaisissables.
Ça, c'est clair.
Donc, alors, il vaut mieux développer
le dialogue. Surveiller, il y a quand même une nuance.
Merci à tous les deux. Le message est passé.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.